Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Natacha Vallas, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, qui a coécrit Le futur de la monnaie. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, et puis Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du cercle des économistes et auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Juste un petit mot pour saluer Noël qui m'a envoyé un mail se demandant si je lisais les mails qu'on m'envoyait. Alors je réponds pas toujours, c'est vrai, mais j'ai lu votre mail, il réagissait à pas mal d'éléments entendus dans l'émission ces derniers jours. Vous savez que si vous voulez réagir, il vaut mieux m'écrire sur Twitter, enfin X. C'est là où j'essaye de lire à peu près ce que vous m'envoyez.
Le réseau de l'amour.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a, s'il y en a un qui est pour, qui est favorable à la solution fiscale, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais ?
Très franchement, moi, je pense que une fois de plus, baisser les dépenses, c'est une très mauvaise idée.
Mais monter les impôts aussi.
Monter les impôts, notamment sur les classes moyennes et les classes populaires, ce serait une mauvaise idée.
Mais il n'est pas question de monter les impôts sur les classes populaires.
Oui, bah écoutez...
Mais non. Il est question même d'accorder 2 milliards de baisses d'impôts aux classes moyennes en 2025.
Ouais, ça, oui, mais quelle classe moyenne ?
On verra.
Quelle classe moyenne ?
Les gens entre 1005 et 2000, ça veut dire que ça fera 100 balles par ménage.
Bon. Oui.
Parce que ce sera évidemment...
C'est toujours les mêmes qui payent. Hein. C'est jamais les plus aisés qui pourraient se le permettre qui payent.
Il y a des idées pour aller taxer les plus aisés, comme vous dites. Hein. Notamment Pierre Moscovici, qui veut une taxe exceptionnelle et temporaire. L'incident de crédit, non, jamais.
Non, mais l'incident...
Faut jamais dire... Non, mais laissez Natacha, elle a un déficit.
Moi, j'aimerais développer là-dessus.
Déficit de temps de parole pour Natacha.
Voilà. Oui.
Après, on va dire en plus que je traite mal les femmes et tout ça. Non, ça va pas.
Mais non, c'est vraiment pas vrai. Alors là, je viendrai au secours. Bon. La vraie question, c'est qu'on s'imagine que parce que les choses se sont bien passées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans...
200 ans, Natacha.
Voilà, j'allais pas remonter si loin que ça. Mais on s'imagine que parce que... Et donc, ça se passera bien pendant la nuit des temps à venir. Or, les circonstances, le point de départ des circonstances changent, c'est-à-dire que le stock de dettes augmente, les conditions de financement sont encore, malgré la hausse des taux, encore favorables, CF, le niveau des taux réels, et donc on absorbe ça avec une gestion, il faut le dire quand même, de l'agence France Trésor qui est exceptionnelle.
Ils sont exceptionnels.
Ils savent très très bien comprendre les marchés, savoir quand émettre, à quelle maturité, comment maintenir la duration de la dette.
Donc voilà un service public efficace.
Ça, effectivement, ça l'est, et ça nous fait économiser des milliards d'euros. Donc absolument. Là, reconnaissons-le. Mais il y a une limite à cette efficacité-là, qui est l'état objectif, un, des finances publiques en termes de stock et de flux, donc de dette et de déficit, et puis le fait que cette dépense publique-là, elle soit capable ou non de générer de la croissance, qui nous permette aussi d'avoir une stabilisation de ses effets. Et donc, si ces circonstances s'aggravent graduellement, on le sait, dans les crises, les choses ne sont jamais linéaires. Du jour au lendemain, on se réveille et il se passe quelque chose. Les subprimes en 2008, l'Angleterre il y a 2 ans, dans des circonstances qu'on n'attend pas forcément et qui ne sont pas forcément générées par un phénomène précis, c'est juste une rupture de l'équilibre. Donc, je ne dis pas que ça va arriver sur la France dans les trimestres à venir, mais je dis simplement que la probabilité pour que quelque chose de ce genre advienne est plus élevée qu'elle ne l'était hier et qu'elle ne l'était avant-hier. Donc, soyons prudents et ne jouons pas avec le feu parce que nous aussi, on bénéficie d'un privilège qui n'est pas exorbitant comme celui du dollar et de
l'euro. L'euro est un petit privilège quand même.
Mais on a quand même un privilège qu'il faut aussi choyer, entre parenthèses, parce que tant qu'on a l'euro, c'est bien. On n'est pas du tout dans un environnement où on remet en cause la pérennité de l'euro, l'avenir de l'euro, mais ça s'est passé dans un passé assez récent. Donc, soyons très, très chérissons ces circonstances et comportons-nous pour qu'elles perdurent.
À la moindre alerte, nos amis de la BCE sortiront du bois et viendront nous sauver. Dany, sur le risque de crédit, et puis Christian, après on avance, on fera un peu de TVA sociale quand même.
Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de crédit, et notamment, je suis tout à fait conscient, ce que vous ne dites pas, mais qu'il y a l'arrière-plan quand même, que les marchés, du jour au lendemain, peuvent dévisser, parfois pour des raisons extrêmement irrationnelles. Les marchés se sont rendus compte en 2009, qui a l'article 103 du traité de Maastricht qui interdit à la Banque centrale d'acheter de la dette publique. Donc des fois, les marchés dévissent du jour au lendemain. Moi, je ne crois pas du tout à l'absolue rationalité des marchés, à leur grande intelligence. S'ils avaient été intelligents, ils n'auraient pas prêté au même taux aux Allemands et aux Grecs avant la crise de 2009. Je suis désolé, c'est pas rationnel non plus. Si les marchés étaient si efficaces et si intelligents, voilà. Puis les marchés, attention, parce que d'un côté, ils se plaignent quand il y a trop de dépenses publiques et trop de dettes publiques, mais de l'autre côté, ils se plaignent aussi quand il n'y a pas de croissance. Les marchés ont des exigences et des demandes contradictoires. Moi, je ne pense pas, on s'est mis à la merci des marchés, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que le financement de la dette publique était beaucoup plus sain avant qu'on se mette autant à la dette des marchés quand on avait un circuit du Trésor. Maintenant, on a fait ce choix-là. Il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga de la politique. Je pense que la vraie question aujourd'hui, effectivement, c'est de se concentrer sur les priorités, notamment la transition écologique. La transition écologique coûte cher, mais c'est aussi une manière de faire repartir le bâtiment, qui, on en parlait hors antenne, va pas très bien. Et je suis pas loin de penser que quand le bâtiment va pas bien, le reste ne va pas bien.
C'est bien, les contraintes vertes pèsent beaucoup sur la... participent beaucoup au ralentissement du bâtiment.
Pour revenir sur les marchés...
C'est bien de la transition. Oui, Natacha, puis Christian.
Les marchés ne sont pas toujours rationnels, je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement, les marchés, c'est un mécanisme qui fait quoi ? Qui met en face d'une demande, d'un besoin de financement, en l'occurrence celui de l'État français, une capacité de financement. Qui est cette capacité de financement aujourd'hui ? C'est l'épargne privée, qu'elle soit domestique, c'est celle des Français, mais aussi beaucoup, celle des non-résidents. Et puis de l'épargne publique, que sont les grands fonds souverains, etc. Donc, en face, c'est une épargne qui est là. C'est pas un trader seul dans son coin qui sort de l'argent des
hausses. Non, mais d'accord. Mais
donc le marché de la dette publique, c'est pas du tout.
Il faut pas mythifier. C'est un mécanisme. C'est un ensemble de tuyauteries qui a ses avantages et ses inconvénients, mais à la fin du fin, c'est quand même cette mise en adéquation d'un besoin de financement avec une capacité de financement. Et si la capacité de financement fait face à une capacité de remboursement qui est moindre ou perçue comme moindre, eh bien, elle va demander des rendements plus élevés. Ou alors, voilà, il faut...
Oui, mais c'est aussi, dernière chose, c'est aussi parce que dans la zone euro, on a fait ce que ne font ni les Américains, ni les Japonais, ni les Anglais, c'est-à-dire qu'on a rendu, on a fait que les dettes privées soient des actifs risqués. Et ça a provoqué la crise de 2009, et c'est toujours là. Alors qu'à l'époque, M. Sarkozy, M. Juppé nous disaient, il faut arrêter, il faut enlever cet article du traité de Maastricht. Mme Merkel a dit nein, et on en revient de nouveau à ce point-là.
À propos, justement, il y a eu une sortie assez inattendue de Patrick Artus vendredi qui disait, en fait, il faut consolider les comptes publics allemands et français parce que quand il n'y a pas de papier allemand, on va chercher du papier français à la place.
Ben oui.
Et donc, à France-Allemagne, c'est du kiff-kiff bourrique. Je vous la résume de manière un peu moins techno que ce qu'il nous a dit, mais c'était ça. On est un peu resté sur notre chaise. Il y avait Dorothée Rouzet du Trésor qui était là. Je suis pas sûr que les Allemands, ce soit vraiment leur tasse de thé, une consolidation budgétaire.
Non,
Christian, par rapport à ce qu'on s'est dit, après on avance, parce que je voulais qu'on parle
alors
de la
productivité. Un problème macroéconomique sous-jacent qu'on n'a pas abordé, qui est que Hollande est élu en 2012, depuis 2014, donc ça fait 10 ans, on enchaîne les plans qui sont censés redynamiser l'économie française, et ça a été le credo d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on est dans l'échec de cette approche, puisque...
De la politique de l'offre ?
Non. La façon dont cette politique a été menée.
Que voulez-vous dire ? Je suis mal.
Il n'y a pas que vous qui me suivez mal, puisque le gouvernement et les autorités de ce pays ne comprennent pas que pour accélérer la croissance, il faut s'intéresser à la microéconomie, des grosses PME et des ETI. Nous avons une stagnation du nombre d'ETI dans le pays. Les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire qui font entre 250 et 5 000 salariés. En gros, c'est l'entreprise de 100 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Oui, il en faudrait le double. On est bien d'accord là-dessus.
Et on sait que quand on développe le nombre de ces ETI, elles ont une triple particularité. elles font plus d'innovation que le reste de l'économie, elles sont plus dynamiques en termes de création d'emplois et elles exportent davantage. Donc la réflexion qu'on doit mener, c'est pourquoi, alors que ce problème est identifié, d'ailleurs depuis Raymond Barr, ça fait une quarantaine d'années, pourquoi on n'avance pas ? Alors, on sait qu'il y a des problèmes de transmission qui sont insuffisamment réglés et surtout, on a laissé s'effondrer tout le corps central de l'économie. On a misé uniquement, et j'y suis favorable, on a misé, au fait que c'était uniquement, mais on a misé sur la haute technologie, on n'a pas assez misé sur les technologies de moyenne, et on a laissé s'effondrer toute la production. On ne produit plus de machines à laver, on produit plus de...
Ça fait longtemps, ça, hein.
Oui, mais d'autres pays ont continué à résister. Et surtout, on a un effondrement total de la production de voitures. C'était 20 milliards d'excédents il y a 20 ans, c'est 20 milliards de déficit, la filière automobile. Je regardais les chiffres hier pour un article, moi-même j'étais stupéfait. On a fait 900 000 voitures, on a produit 900 000 voitures sur le territoire français l'année dernière contre 3 millions il y a 20 ans, alors que les Allemands sont remontés à 5 millions.
Donc on a oublié le cœur de l'économie productive.
Donc on a oublié le cœur du système productif et cette absence de cœur du système productif fait qu'on a des variations très fortes de l'activité en lien avec l'économie mondiale parce qu'on n'a pas le bourrin qui fait tourner la machine de façon régulière.
Très brièvement, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Dany Lang. On parle productivité.
Je ne suis pas
après.
Un fou furieux de la politique de l'offre, mais là-dessus, sur les ETI, je suis complètement d'accord avec vous. J'irai même plus loin. Je dis qu'avec la relocalisation, ça devrait être notre priorité absolue et qu'on mette les moyens là-dessus. Et
d'ailleurs, si doit y avoir relocalisation, elle sera faite par les ETI.
Non, mais il doit y avoir relocalisation, sinon on est mort.
Or sur ce point, par exemple, vous savez qu'il n'y a pas réindustrialisation. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas le foncier pour mettre des usines.
Pas le foncier, je sais bien, on ne va pas assez vite sur les impôts de production. Bon. Le rapport de la Banque de France sur la productivité, Natacha Valla, il s'est voulu rassurant. Ça fait des mois qu'on parle de la productivité, qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi on perd 6 points de productivité depuis 2019. Comment faire autrement ? La Banque de France publie une étude un peu rassurante, en ayant à peu près identifié la moitié des raisons. Il y a quand même une moitié, elle ne sait pas trop. Mais une moitié des raisons, avec certaines explications temporaires, sous-entendues, bon, ça va aller mieux. Est-ce que vous partagez cette vision de la Banque de France sur la productivité et le fait qu'on pourrait être sur une voie d'amélioration?
Alors, j'ai
fait très court là, mais...
Sur la proportion, la moitié, c'est difficile d'être précis. On calcule, il y a plusieurs types d'évaluation. Sur le ton, je pense qu'ils ont raison. On en a discuté d'ailleurs avec la Banque de France qui est représentée au Conseil national de la productivité. Donc ils ont vraiment des travaux intéressants et sérieux. On avait vu que la contre-performance de la France en matière de productivité mesurée et apparente du travail, qui est exceptionnelle dans sa négativité depuis le Covid. On sait que ça, c'est lié en partie aux politiques de réponse, en particulier de protection de l'emploi. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien.
On a zombifié l'emploi en même temps que les entreprises.
Voilà, il fallait sans doute le faire. Bref, on en a des conséquences assez logiques. Et en toute logique, d'ailleurs, il devrait y avoir un effet de rebond à l'issue de ces politiques-là, qui sont un peu corrélatives, il faut le dire, avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les entreprises qui sont dans les prévisions de commerce aujourd'hui. Et on commence à voir cette réalité. Il faudra la traiter. Elle est considérée comme indépendante de ce problème de productivité. Elle ne l'est pas tout à fait. C'est-à-dire que la structure de financement et l'état des bilans, en tout cas du passif des entreprises aujourd'hui, peut avoir un impact sur la dynamique de reprise de la productivité dans l'année ou les deux années qui viennent. Ça, c'est un premier point. Ce qui n'explique pas, et la Banque de France est très claire là-dessus, qu'il y a quand même une grande partie du frein sur la productivité qui reste inexpliqué, ou en tout cas inexpliqué par des facteurs temporaires et cycliques. Et c'est ce à quoi il faut s'atteler, puisque tant qu'on ne comprend pas ça, on n'aura pas forcément les clés et les propositions de politique publique qui vont nous délivrer de la productivité. Alors ce qu'on sait quand même, c'est que parmi les pays qui sont les plus performants en termes de productivité, ou en tout cas en termes de rebond de la productivité, je pense aux États-Unis, on le mesure moins bien, mais la Chine est un peu sur les mêmes métriques. Il y a un très très fort investissement du pays, que ce soit public ou privé sur la recherche et le développement. Et un très fort.
Augmentons la dépense publique.
Alors, j'ai dit public et privé.
J'ai bien entendu.
En tout cas, l'important, c'est la proportion du PIB, après laquelle est la plus efficace, allouée à cette catégorie de dépenses-là. La vraie question aussi, c'est que nous, on est meilleurs, en France, mais en Europe de façon générale, pour la dépense et pour l'efficacité de cette dépense en matière de mise en œuvre d'innovations qui sont développées ailleurs. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met le paquet sur je vais mettre en œuvre quelque chose qui a été développé ailleurs, ou est-ce que je me repositionne sur la recherche fondamentale et sa diffusion première ? Et là, on a des experts en la matière pour analyser la chose. Il y a un rapport sur l'intelligence artificielle qui est sorti, etc. Pour dire, voilà, est-ce que je me repositionne quand même sur ces éléments-là, où j'ai pris un peu de perdu de la vitesse relative par rapport aux autres, mais c'est peut-être pas trop tard. Et à ce moment-là, il faut vraiment y aller franchement en fonction des choix de politique publique qu'on fera.
Alors, parmi les éléments durables, la Banque de France cite l'essor de l'apprentissage, la quête de main-d'œuvre qui a poussé à se tourner vers des profils peut-être moins qualifiés, ou encore l'essor du télétravail, des éléments qui devraient durer justement là-dessus. Oui, Dany Lang, allez-y.
Alors, déjà, je veux dire, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de points d'accord.
Mais vous avez une experte de la productivité à votre,
à votre
gauche, Dany.
J'ai lu le rapport de la Banque de France en arrivant, parce qu'on apprend les sujets un peu avant.
Oui, oui, donc, 1h15 avant, ça va.
Mais c'est pas suffisant pour entrer dans les détails.
Mais je suis d'accord.
Mais c'est un rapport qui est intéressant. Moi, je n'oppose pas la dépense publique, la dépense privée. Effectivement, il faut de la dépense en matière d'investissement. Les États-Unis s'en sortent très bien. On s'en sort beaucoup moins bien. J'ajouterais quand même, il y a une chose qui me préoccupe depuis un certain nombre d'années en France, c'est quand même la baisse de la qualité d'un certain nombre d'emplois, et notamment tous les emplois dans le secteur des Uber, ce genre d'emplois. Ben forcément, c'est des emplois sans gain de productivité. Donc ça n'explique évidemment pas la stagnation dont on a évoqué les...
Même le recul.
Oui, l'an dernier, on a eu 0,4% de gain de productivité d'après l'OFCE.
J'ai vu ça.
Mais effectivement, c'est faible. Et l'enjeu de ça, il est important. Parce que quand on a très peu de gain de productivité, c'est plus compliqué d'augmenter les salaires. Et c'est très embêtant dans une période d'inflation. Où, en fait, augmenter les salaires n'est pas inflationniste si on a des gains de productivité en ligne avec l'augmentation des salaires. Donc effectivement, c'est un véritable enjeu. À mon avis, il y a aussi un enjeu de qualité de l'emploi. Et puis, il y a aussi des emplois qu'on crée et qu'on devra créer qui ne sont pas porteurs de gains de productivité. Enfin, la France, depuis les années 90, où on était champion d'Europe de la productivité horaire, a quand même bien reculé. Il faudrait réfléchir aux autres raisons de ce gain de productivité.
C'est la désindustrialisation qui a beaucoup joué aussi.
Oui, ça j'en sais quelque chose en tant que membre du Manifeste pour l'Industrie. Voilà. Donc réindustrialiser, les États-Unis ont des gains de productivité parce que la politique de Biden, notamment avec l'IRA, c'est la réindustrialisation. Et ça va prendre un peu de temps à faire effet, mais vous allez voir dans 2-3 ans quand les usines qui sont en train de construire partout, notamment les usines de semi-conducteurs, vont fonctionner.
Et les usines allemandes, des entreprises qui ont décidé de quitter l'Allemagne pour aller chercher les milliards de Biden et l'énergie bon marché.
Ça,
mais ils ont l'énergie bon marché et en plus ils ont une force de frappe en investissement public que nous n'aurons jamais.
Oui.
On ne peut pas avoir 8% de déficit, nous, c'est pas possible. Vous voulez rajouter quelque chose, Christian, ou je vous fais plancher sur la TVA sociale ?
Allons-y.
Alors, TVA sociale, c'est Bruno Le Maire, 5 points de cotisation vers la TVA, 60 milliards d'euros pour monter le salaire net.
Oui.
Voilà.
Alors c'est illusoire, bien que j'ai écrit favorablement sur la TVA sociale il y a quelques années.
Et vous avez changé d'avis ?
Mais pas 5 points. Tout montre qu'on pourrait peut-être précautionneusement monter le taux supérieur de 20 à 22, mais on peut pas monter à 25. On peut pas avoir le record d'Europe dans chaque catégorie d'impôts.
C'est le seul où on n'a pas le record.
Voilà.
L'un des seuls.
Donc si on dit, on n'a pas le record, donc on va se faire 5 points. Non, parce que qu'est-ce que ça provoquerait ? Ça provoque un appauvrissement de la population, d'une certaine façon, avec le renchérissement des biens de consommation. Et puis, surtout, La TVA sociale, c'est quelque chose qui doit permettre d'avoir une plus grande efficacité et productivité de l'économie. Alors, il dit effectivement réduction des cotisations sociales, mais en réalité, le débat actuellement, quand vous écoutez l'ensemble des propositions et pas seulement de Bruno Le Maire, c'est faire de la TVA sociale pour, en réalité, réduire le déficit, ce qui ne réglera pas les problèmes fondamentaux. Donc, la TVA sociale, ça peut être un petit élément, mais ce qui est le plus efficace, si on veut avoir une réaction du système économico-social, c'est la CSG. C'est l'impôt le plus efficace sur le plan...
Mais vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net.
Vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net, sauf si, dans le même temps, et c'est ma proposition depuis un moment, parce qu'on est avec ces 3 points de déficit structurel depuis une quinzaine d'années, à un moment donné, il faudra dire aux Français, bah écoutez, on va passer de 35 heures à 37 heures de durée du travail payé 37, ce qui fait à peu près une augmentation du revenu de 5 points, et on va devoir en passer par 2 points de CSG de plus pour régler le problème du déficit structurel, c'est-à-dire qu'on va devoir le régler en travaillant davantage.
Alors vous reprenez ce que dit Bruno Le Maire, mais à des fins de règlement des déséquilibres des comptes publics, pas d'amélioration de la rémunération des gens qui... Parce que l'antienne de Bruno Le Maire, c'est celui qui bosse doit gagner plus que...
Oui, mais ça se fait par la réforme du chômage et l'activation du RSA et de l'ensemble des dépenses de protection sociale.
TVA, CSG, social, non,
bon,
pas d'avis.
Si, j'ai un avis.
La vie est longue.
Je suis d'accord avec vous pour dire que ça ne va pas régler les problèmes. De toute façon, la TVA sociale, à mon sens, c'est une très mauvaise idée. La TVA est déjà trop élevée en France. Donc,
Elle est moins élevée que la moyenne européenne.
Elle est moins élevée que dans d'autres économies européennes.
Non, le gros coût qui a été réussi.
Le plus injuste, et puis il faut rappeler qu'en SMICAR, il paye la moitié de son impôt, la moitié de son revenu en impôt, et là-dedans, il y a la TVA, la TIPP, etc. C'est pas une bonne idée au moment où les SMICAR tirent la langue à cause de l'inflation.
De toute façon, c'est restructurer la dépense pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit redirigée vers l'investissement, la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur. C'est ce qui permettra de relancer l'économie.
Le bilan de notre débat, c'est que la vraie réflexion, elle est sur la dépense publique.
La structure
et pas sur
de la dépense.
Puisque on essaye, à partir de cette tautologie, qu'à partir du moment où on a un déficit qu'on souhaite combler, si on réduit une catégorie d'impôts, on ne va pas augmenter. Enfin voilà, si on l'augmente, on ne va pas la réduire par la même proportion, sinon on ne réduit pas le déficit. Donc c'est un petit peu un tour de passe-passe.
En fait, il faut mener une politique qui relance la croissance. Voilà. Et qui relance la croissance sans augmenter le déficit, c'est-à-dire que au sein de la dépense. Franchement, au sein de la dépense, sur les 56 points, moi je vous trouve 4 points de dépense publique. Je le sais parce que il y a quelques années, j'étais conseiller de Paris. C'est quand même le premier budget de France, de collectivité locale. C'est un budget qui tourne à plus de 9 milliards d'euros. Et franchement, j'ai travaillé sur ce budget. Je connaissais tous les éléments constitutifs du budget de la ville de Paris, qui est à la fois commune et département. Et je vous garantis que sur les 9 milliards, je trouvais 1 milliard d'économies. Et je vous garantis que vous pouvez faire ça sur l'ensemble des collectivités locales. Et là, vous pouvez... L'ensemble des collectivités locales, c'est quand même 10 points de PIB. Vous pouvez, alors ça se fait pas du jour au lendemain, vous pouvez trouver un point de PIB sur les collectivités locales et sans foutre en l'air l'action locale.
Je suis persuadé qu'il y a certainement des économies possibles non négligeables, mais ça demande un travail qui soit pas totalement ultra récessive et absolument insupportable.
Et au demeurant, même sur la fiscalité, si on remet des tranches un peu plus importantes et plus progressives, c'est pas ça non plus.
On peut pas dire que l'impôt est pas progressif.
Écoutez, on a beaucoup moins de tranches qu'il y a quelques années. La tranche supérieure est beaucoup plus basse. Quand vous êtes comme moi, classes moyennes supérieures.
La CSG, on est à plus de 50%.
Quand vous êtes des classes moyennes supérieures. Moi, je vais rester toute ma vie dans la tranche à 30%. Alors, j'aimerais bien passer dans une tranche à 32, 35%.
Quand on met les prélèvements sociaux, on est au-delà de 50% en taux marginal d'impôt sur le revenu.
Non, mais d'accord, mais l'IRPP rapporte trop peu.
Les cotisations sont déplafonnées sur les revenus.
J'ai une bonne nouvelle, si on arrête l'indexation des revenus sur les impôts, vous serez bientôt à 35%.
L'IRPP n'est pas assez progressif. Et puis surtout... les taxes sur l'héritage, notamment les très hauts patrimoines, sont ridicules, ce qui fait qu'on a une calcification Et cette calcification contribue au sentiment de déclassement,
En attendant d'aller taxer les riches, on va, a priori, s'attaquer à l'assurance chômage, Christian Saint-Etienne. Oui. Gabriel Attal, demain, je ne sais pas s'il profite de l'absence d'Emmanuel Macron pour eux.
Mais c'est un bon exemple d'économie qui favorise l'offre. Les derniers ajustements qui ont été mis en œuvre par le gouvernement sur les conditions pour obtenir une allocation chômage ont permis une augmentation de l'offre de travail. On ne peut pas nier, parce que non seulement c'est observé par des études, mais on le voit dans ces milieux familiaux et autres, vous avez une optimisation, ça montre d'ailleurs l'intelligence des gens, vous avez une optimisation des conditions de chômage. Vous avez beaucoup de gens qui se disent, à un moment donné, je vais prendre quelques mois avant de rechercher un emploi. Ça n'existe pas aux États-Unis. On rappelle qu'aux États-Unis... Je rappelle juste ce chiffre, puis je termine. 34 points de PIB de prestations de protection sociale en France, dont 22 ou 23 de prestations sociales. Et aux États-Unis, c'est 20. En Chine, Chine communiste.
Oui.
C'est 10. Pourquoi la Chine avance? C'est parce qu'ils ne mettent pas l'argent sur la... Il faudrait d'ailleurs que la Chine fasse plus de protection sociale. Ils seraient peut-être moins en difficulté de politique économique. Mais nous, nous sommes au-delà de l'optimum. C'est-à-dire que vous avez, dans les classes populaires, 3 à 4 millions d'emplois où ça ne paye pas plus de bosser que de ne pas bosser.
Natacha, peut-être un mot là-dessus, sur l'un des événements de la semaine. Ça va être Gabriel Attal à la télé demain qui va... serrer la vis.
C'est une question d'incitation et les incitations, elles s'exercent le plus fortement sur la décision entre le loisir et le travail. Elles s'exercent sur la décision entre l'épargne et la consommation. Ça, c'est des leviers qui sont importants pour la croissance. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut guider les incitations, et ça va vers une réforme de l'assurance chômage qui soit un petit peu plus directive, qui va dans le sens que
pour être explicite, il faut avoir travaillé 6 mois pour pouvoir toucher des allocations chômage en France. C'est 1 an en Allemagne.
Non, mais je sais que c'est très différent.
Donc, il ne s'agit pas... Même si vous passez de 6 mois à 8 mois, je vous garantis que vous allez avoir une augmentation de l'offre de travail.
Le mot de la fin là-dessus, Daniel Lang.
Désaccord complet.
Je pensais.
Ces choses-là. Quand on a 5,5 millions de chômeurs, quand ça fait des années, ça fait 40 ans qu'on baisse la durée et le montant des indemnisations...
Non, on n'a pas fait ça, on a fait l'inverse.
C'est pas en punissant les chômeurs que les
emplois vont se créer. Non, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de changer les incitations.
Je ne crois pas à la magie.
Bon.
Je ne sais pas de quoi sera faite cette nouvelle réforme.
Mais cette
on va baisser la durée, le montant des indemnisations. On nous a déjà remis la dégressivité qui ne marchait pas.
C'est pour les cadres uniquement, la dégressivité.
On ne va pas le traiter aujourd'hui, sujet pour vous. La grande différence entre efficacité et inefficacité du système, c'est la vision qu'on a de la façon dont on incite les acteurs économiques, le consommateur, l'entreprise, l'investisseur, à faire un effort supplémentaire ou pas. Et ça, ce sont des leviers qu'on n'utilise pas suffisamment en France.
Gabriel Attal, ce sera demain à la télé, je crois que c'est dans un JT, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Merci d'avoir été là, Natacha Valla, Dany Lang et Christian Saint-Etienne. Rendez-vous demain à 9h.